c'est du timing. Voilà, donc les enfants ont préparé, avec Michel, on a voulu faire quelque chose à Pâques. Souvent c'est Noël hein, qui est le phare de la fête de l'Église, mais on souhaitait que Pâques aussi, on fasse quelque chose et une participation avec toute l'Église, dont les enfants. Donc un grand merci à Jérôme et Juno qui ont créé ce petit spectacle que nous allons voir maintenant.
Eh ben mon vieux, si on avait dit que c'était ça la Légion, j'aurais signé tout de suite. On prend la relève des camarades, et ils ont dit qu'ils ne se sont pas foulés.
Pour sûr, en 15 ans de carrière, c'est la mission la plus facile que j'ai jamais eue. Penses-tu garder un mort pour ne pas qu'il sorte de son tombeau?
Tu es sûr que ce n'est pas pour empêcher que d'autres y rentrent?
Mais réfléchis un peu, qui voudrait rentrer dans un tombeau? Tu te vois rouler une pierre qui pèse des tonnes pour finalement te retrouver nez à nez avec un macabée?
Non, c'est vrai, ce n'est pas terrible comme idée. Et puis la conversation tournerait vite court.
En fait, je crois que c'est plutôt pour l'empêcher de sortir parce que le centurion grand Jébus a dit que cet homme était le fils de Dieu.
Le fils de quel Dieu ?
Pas le fils d'un Dieu, le fils du Dieu des Hébreux, celui qui a créé la terre et les hommes, enfin tout quoi.
C'est vrai que c'était bizarre tout à l'heure, le tremblement de terre, le soleil qui s'est obscurci, les morts qui sont sortis des tombeaux.
Nous y voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour ne pas que ça recommence.
Mais c'est que tu réfléchis, montagne russe, continue comme ça et tu finiras très bien.
Moi, ce qui m'a fait tout drôle, c'est de revoir vivant, avec son linceul, un des juifs qui s'est fait auxir le mois dernier, lors d'une sédition. Il était à côté de moi quand il s'est fait embrocher sous mes yeux. Il était tout raide quand on l'a transporté.
Et vous croyez que Dieu peut ressusciter comme les autres, c'est Jésus, puisqu'il est son fils ?
Bien sûr, vous avez vu ce qu'il vient de faire. Et mon cousin Grominus, qui parle un peu araméen, a surpris une conversation entre deux juifs. Il paraît que le gros rideau dans leur temple s'est déchiré en deux, alors que c'est très difficile de le couper avec une épée tellement il est épais. Et puis surtout, ils ont dit que Jésus a annoncé qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort.
Et là, nous atteignons le 3e jour de garde.
On démarre !
Quelle tristesse! Voici le 3e jour qu'ils ont enseveli notre Seigneur. Qu'allons-nous devenir?
Et aussi, comment franchirons-nous la garde et qui nous roulera la pierre?
Mais qu'est-ce que c'est que ce balagan?
Je ne sais pas, ce n'est pas normal. La pierre est roulée et les gardes sont devenus des chiffres molles.
Je vois Pierre et Jean qui arrivent en courant. On va voir ce qu'ils en disent. Pierre, Jean, venez par ici.
La pierre du tombeau est roulée et les gardes sont allongés par terre. Ils font pitié à voir.
C'est un miracle!
Tout est clair à présent.
Mais ne partez pas! Dites-nous ce qui se passe!
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de miracle qui s'éclaire?
Pourquoi pleures-tu ? Je pleure parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Je pleure parce qu'il y a une bande de zombies qui étaient censés garder le tombeau et empêcher cela d'arriver, mais ils ont failli à leur mission. Je pleure parce que nos deux amis que vous avez dû croiser, parce que c'est un vrai moulin ici, sont entrés dans le tombeau en se ressentant en tenant des propos aussi sibyllins qu'elles étaient et nous ont laissés en plan. Je pleure parce que je ne sais plus quoi faire maintenant. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je me sens abandonnée. Ça vous suffit comme réponse ou est-ce que je développe ?
Ça nous suffit, merci. C'était une question rhétorique.
C'était pouter et conforter.
Eh bien, c'est raté.
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?
Ah non, voici que le jardinier s'y met à présent. Je ne vais quand même pas tout expliquer à nouveau. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai.
Marie.
Rabouni.
Ne craignez pas. Allez trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Mais puisqu'on vous dit que nous l'avons vu.
Arrête, Marie, avec ces histoires de bonne femme. Tu voudras tellement croire à ce que tu racontes que tu es prête à voir le Seigneur à tous les coins de rue.
Demandez donc à Pierre et Jean. Le tombeau était bien vide.
En effet, vide et bien rangé.
Et voilà pourquoi notre maître a annoncé qu'il rebâtirait le temple en 3 jours. Il parlait en fait de son corps. Il avait annoncé que personne ne lui prenait la vie, mais que c'est lui qui la donnait, car il a le pouvoir de la donner et de la reprendre.
Dis donc, gamin, tu viens à peine de muer et tu viens nous prêcher comme un rave un jour de Shabbat? On n'est pas à la synagogue ici. Tu ne l'as même pas vu, toi, le Seigneur.
Vous ne deviendrez jamais qui nous venons de rencontrer sur les chemins d'Emmaüs.
Par hasard, ne serait-ce pas le Seigneur Yeshua ressuscité?
Tout juste, incroyable, non?
Tellement incroyable qu'on n'y croit pas.
La paix soit avec vous. Oui, c'est bien moi, bande d'incrédules. Comme vous avez le cœur dur, comme vous êtes lent à croire, ne devais-je pas passer par la croix afin d'effacer par mon sang les péchés des hommes et racheter tous ceux qui croiraient en moi? Ne fallait-il pas que je m'humilie afin que le Père m'élève et me rende la gloire que j'ai toujours eue dans le ciel? Voyez, mes enfants, c'est bien moi.
Quand on dira ça à Thomas, il n'en reviendra pas.
En effet, c'est donc moi qui reviendrai. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
On peut les féliciter, hein. Ça a été un gros travail pour avoir organisé les fêtes de Noël pendant près de 40 ans. Je peux vous dire que c'est pas facile. Et voilà, ils ont fait un très gros travail. Ça n'a pas forcément l'air parce que maintenant on voit tout fini et tout qui baigne. Mais quand il faut démarrer à zéro, je vous assure, c'est angoissant. On ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là. On ne sait pas qui peut venir aux répétitions et qui ne peut pas. Vraiment, félicitations à Jérôme Moyuno qui ont fait un très, très beau travail. En plus, c'est Jérôme qui a composé le texte. Donc, c'était aussi... il n'a pas repris un autre texte. Et franchement, ça aussi, c'est difficile. Et les enregistrements, etc. Donc, vraiment, ça me réjouit beaucoup de voir que pour la première fois, ça a toujours été mon intention autrefois de faire une fête à Pâques et j'ai jamais réussi. Je pouvais faire que Noël. Donc là, ça me fait très, très plaisir qu'ils aient réussi à nous faire un spectacle pour Pâques parce que ça glorifie vraiment le Seigneur et ça met la notion de résurrection vraiment à la hauteur des enfants pour qu'ils puissent comprendre en le vivant en sketch. C'est très, très important. J'avais une toute petite anecdote... En écoutant les enfants, ça m'est revenu. Quand je faisais la culture biblique à l'école Notre-Dame à Mantes, j'avais ce jour-là, c'était un petit peu avant Pâques, j'avais raconté l'histoire de la résurrection. Et j'avais dit dans mon texte, non, c'est pas une histoire de bonne femme. Il est vraiment ressuscité, il est vivant. Et bon, quand on réfléchit un peu psychologiquement, il y a tout un tas de preuves qui prouve que Jésus est ressuscité, la façon dont sont comportés les disciples, etc., etc., enfin, et les Romains. Voilà, donc j'avais expliqué tout ça, et visiblement les enfants étaient convaincus, et il y avait, c'était en CM1, je crois, et il y a un petit garçon, je connaissais ses parents, sa maman était prof, et je crois qu'ils étaient athées, je crois, j'en suis sûre même, et il avait bien écouté. Et j'avais demandé si quelqu'un voulait prier. Et ils ont tous bien voulu prier. J'étais très étonnée. J'avais un demi-groupe, donc une quinzaine d'enfants. Et ce fils de prof athée, il commence à prier en disant « Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce n'est pas une histoire de bonne femme. Tu es vraiment ressuscité. » J'étais morte de rire.
Voilà, je vous invite à prier pour ce temps de prédication que je vais apporter maintenant. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, ta parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, merci, parce que cette parole, Seigneur, c'est toi-même qui l'as incarnée. C'est toi-même qui l'as vécue sur terre, et qui maintenant est au ciel. Et qui règne, Seigneur. Merci pour cette parole qui est immuable. Et Seigneur, qui nous parle encore ce matin. Nous te prions, Père, pour ce temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors les enfants nous ont rappelé comment les choses se sont passées. Et vous savez, on a des témoignages historiques, hein, beaucoup plus fiables que la guerre des Gaules. Hein. Pourtant, la guerre des Gaules, dans les écoles, tout ça, on en parle avec historicité, mais la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus sont beaucoup plus attestées, y compris par les non-croyants. Cette histoire que les disciples ont racontée de leur vivant, qu'ils ont écrite dans les évangiles, et particulièrement Luc a fait un travail d'investigation, un peu comme les journalistes d'investigation, pour être sûr que ce qu'il écrit, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Nous fêtons la Pâque. Alors, Pâque, ça veut dire passage. C'est la date d'anniversaire de Jésus, qui était fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu. Mais il est fils de l'homme incarné à Noël, donc il s'est incarné en tant que bébé. C'est ce que nous fêtons à Noël. Et à Pâques, il est ressuscité d'entre les morts. Un homme qui est ressuscité, ça ne s'est jamais vu. Et ça se verra parce que nous-mêmes nous ressusciterons avec lui. Mais bien plus, c'est bien plus que cela, Pâques. C'est une véritable révolution pour toute la création. Parce que dans Colossiens, il est dit que Jésus est l'origine et la fin de toute création. Alors juste un mot pour comprendre la portée de cet événement absolument incroyable de Pâques. La bonne nouvelle de la résurrection a été manifestée à quelques-uns et concerne toute la création. Regardez dans Romains ce qui est dit dans Romains, chapitre 8, verset 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Waouh ! C'est absolument incroyable. Cela nous renvoie au lien entre la création et le rachat. Ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait au travers de Jésus, nous a rachetés, c'est l'histoire de notre salut, de notre comment nous sommes sauvés de la perdition, qui a été introduit bien sûr par les premiers hommes dans l'humanité. Il est dit que, ayant pris notre condition, le logos, le verbe, s'est incarné et il a assumé cette dimension charnelle. Il est entré dans le monde dans lequel nous sommes nés et dont nous faisons partie. Il en reste membre dans son ascension. Bientôt, il y aura l'ascension et ensuite la Pentecôte. L'ascension, quand elle est montée au ciel, même s'il n'en porte pas toutes les limites qui sont les nôtres. Son humanité est glorifié et introduit dans la gloire du Père. C'est une figure transfigurée de notre monde, c'est-à-dire une partie de notre monde qui est glorifiée déjà maintenant, en anticipation de ce que nous, on sera avec lui. C'est dans cette certitude du rachat, non pas aujourd'hui, mais de ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, qui répond à celle de Jésus incarné, c'est Jésus ressuscité. Et on peut affirmer dans la foi que nous serons dans la résurrection de la chair de la même manière que Jésus. Et on répond ainsi aux objections des Corinthiens qui voulaient bien croire à la résurrection du Christ. Ils voulaient bien croire que Jésus est ressuscité, mais ils ne voulaient pas affirmer leur propre résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 16, il est dit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. » Paul associe la résurrection du Seigneur avec notre résurrection. Voyez-vous, c'est absolument lié. Nous serons ressuscités. Dis à ton voisin, ta voisine, tu seras ressuscité. Hein ? Tu seras ressuscité comme Jésus. Alors pour lier étroitement notre résurrection à celle de Christ, au Fils qui a livré sa vie pour nous, le Père répond en accédant à son vœu le plus cher, le plus profond, et en nous glorifiant en lui. Nous sommes déjà en espérance et dans la gloire glorifiés avec lui. Sinon, l'offrande du Fils et de son œuvre tout entière qu'il a fait ne serait pas reconnue. La foi dans notre résurrection n'est pas un aspect secondaire de notre foi en Christ. Elle est l'élément essentiel qui donne sens à notre vie chrétienne. Elle fait partie de notre foi, dont l'amour qui lie le Père et le Fils, cet amour, Dieu nous le manifeste et il nous fait participer dans cette communion avec le Père et le Fils. Dans la résurrection, le corps et l'esprit sont indissociables. Et ça, c'était un gros problème pour les philosophes grecs et pour nous, qui sommes héritiers de ces philosophies. La résurrection de Jésus n'est pas uniquement un événement qui n'intéressait pas la personne de Jésus et sa survie. C'est un événement qui donne sens à toute l'histoire de notre monde. Il introduit dans le cours de l'histoire une brèche qui révèle qu'elle est tout entière sous le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Rappelez-vous Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. » Amen. On peut discerner dans tout ce que la création a été faite par Dieu, le cosmos, des signes qui annonce la dégradation. Aujourd'hui, vous lisez Dieu, la science, l'épreuve, c'est prouvé que le monde disparaîtra, puisque la fameuse entropie fait que le monde se désintègre petit à petit, que le soleil, que tout ça, ça va disparaître, puisque c'est comme un carburant, comme quand vous mettez du combustible dans votre cheminée et que vous ne l'alimentez pas plus, parce que la création s'est faite une seule fois, eh bien, vous savez que votre feu va s'éteindre à un moment donné. Eh bien, c'est pareil avec le cosmos, il va s'éteindre, il va devenir complètement glacial, il n'y aura plus de vie possible. Mais le Seigneur, lui, il est celui qui crée de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Amen. Et donc, vous voyez, même la science prouve que Dieu existe, et d'ailleurs, c'est l'objet de ce livre, pour que aujourd'hui, l'être humain, quand il passera devant le jugement de Dieu, il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Rien que ce livre, déjà, eh bien, prouve que la science démontre l'existence de Dieu. Dans Romains 8, verset 39, je l'ai lu tout à l'heure, j'ai l'assurance que... Ah non, c'était le précédent, je crois. Hein, voilà. Oui, je vais aller trop vite. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. On va le dire ensemble parce que, vous voyez, c'est vraiment le cœur de notre foi. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voyez-vous, l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, eh bien, ne pourra pas nous séparer de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui est extérieur à nous, parce que Jésus est à l'intérieur de nous par la présence de son Esprit. Amen. Si nous refusons de croire cela, eh bien, nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle. Donc, c'est une question de foi. Si nous adhérons à ce qu'on vient de lire, et bien sûr, tout le reste de la Bible l'affirme, eh bien, nous restons séparés de Dieu. Voyez-vous ? Simplement, nous rapprocher de Dieu au travers de la foi, de croire ses affirmations, ça suffit pour que nous soyons en présence. Parce que Dieu voit qu'on lui fait confiance. On fait confiance à sa parole. Voyez-vous ? C'est toujours une question de confiance à sa parole. Ce n'est pas seulement l'avenir de notre monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Mais c'est la résurrection du Christ et aussi notre résurrection et notre présent. La victoire sur la mort. La mort n'a plus de possibilité sur nous. Bien sûr, nous devons mourir parce que ce corps, il est affecté par toutes sortes de maladies et nous aurons un nouveau corps comme celui de Christ. C'est ça notre espérance. Notre histoire est faite de la résurrection de Jésus. Dieu s'est manifesté comme celui qui assure le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour, le triomphe du pardon à la croix et le triomphe sur les forces du mal. Aujourd'hui, on voit le mal qui augmente un peu partout, même au milieu de nos familles, les incompréhensions. Eh bien, tout ça s'est triomphé par la résurrection du Christ. Jésus a été mis à mort par la haine et le mépris. Et Jésus, dans sa résurrection, consacre la victoire de toute l'humanité qui fait confiance au Père dans la réussite de son projet pour réunir l'homme avec lui. C'est un projet de réconciliation. Dieu a fait de l'être humain quelqu'un qui devait converser avec lui. Quand vous voyez dans le jardin d'Éden, il y avait une communication quotidienne entre Dieu et l'homme. Et cette communion a été rompue par le péché, par la désobéissance, par simplement le refus de croire. On a cru, ils ont cru, et nous aussi en même temps nous sommes dans ce péché. Nous croyons que l'ennemi, qui est toujours là pour nous susciter à l'oreille des mensonges, eh bien si nous croyons aux mensonges plus que la parole, eh bien nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans l'incrédulité. Et du coup, nous suivons le père du mensonge. Dieu a fait une œuvre de réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui en Christ. Amen. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Dieu t'a réconcilié avec lui en Christ. Amen. Du même coup apparaît en pleine lumière ce qui peut être notre péché le plus grave. C'est le refus de l'avenir que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire, et comme les jeunes nous l'ont dit, eh bien, la mission, aller en mission, nous sommes toujours en mission, eh bien, cette mission, c'est d'annoncer cette nouvelle que Jésus transforme, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus aujourd'hui est vivant. Amen. Et que, eh bien, si nous ne sommes pas habités par cette conviction, eh bien, nous ne pouvons pas faire la mission que Dieu nous demande de faire. Pourquoi y a-t-il un refus? Et pourquoi nous, on est un peu sur la défensive par rapport à ce message? Eh bien, regardez, dans Actes 17, on ne va pas tout lire, hein, mais Actes 17, c'est que l'apôtre Paul, là, à cet endroit-là, il fait une prédication, il fait un discours à Athènes, devant des philosophes. Vous voyez, les philosophes, ils aiment la sagesse. Il y en a qui aiment la sagesse ici? Oui? Et c'est qui la sagesse? C'est Jésus. Jésus est la sagesse. Dans Proverbe 9, partout, il est présenté comme la sagesse. Si nous embrassons Jésus, nous avons la sagesse. Mais si c'est de la philosophie du monde, c'est des pensées, des idées. Et voilà que l'apôtre Paul, ici, dans ce passage, s'adresse à des gens qui sont dans la philosophie. Et il leur raconte que toute l'histoire de Jésus, un peu ce que les enfants ont raconté. Et pour aller à la fin, verset 31, il dit « Car il est fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Un homme, je le lisais bien, un homme, l'apôtre Paul a bien dit, un homme qu'il a désigné pour cela. Donc Jésus est bien un homme. Et toute sa vie, Jésus, il a parlé de lui comme fils de l'homme. Et quand les Quand les apôtres parlaient du Fils de Dieu, ils disaient non, ne dites pas ça. C'était un secret, il fallait garder le secret. Pourquoi ? Parce que le secret, c'est après la résurrection, il va retourner au Père. Donc c'est un mystère, hein, mais ce mystère-là, c'est qu'il faut savoir que c'est un homme que Dieu a fait ressusciter. Et verset 32, à la fin, vous voyez que lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». Alors ? Ouais ? Est-ce que vous avez déjà fait de l'évangélisation en France ? Non ? Si ? Qu'est-ce que vous entendez ? Je parle vraiment des Français, hein, parce que on a beaucoup maintenant de gens de l'extérieur qui croient. Vous voyez, une Syrienne qui est venue en France, et Michel l'avait conduit en voiture, et Michel lui a dit, les Français, ils croient pas en Dieu, quoi. Elle a dit, quoi ? Mais ils sont fous. Mais vous, les Syriens, ils comprennent pas qu'un pays, des Français, puisse ne pas croire en Dieu. Ça l'avait abasourdi. Hein ? Ok. Donc, les Français sont des philosophes. D'ailleurs, c'est un des seuls pays, je crois. Attention, toute philosophie n'est pas mauvaise. Hein. Mais je veux dire, quand on devient une idole, quand on met la philosophie au-dessus de la parole et qu'on critique, on arrive à cela. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'un homme soit ressuscité d'entre les morts. Pourquoi ? Pourquoi les philosophes, en tout cas grecs, hein, il y a d'autres philosophes... Pourquoi ils ne peuvent pas accepter ça ? Pardon ? Voilà. Parce que pour eux, parce que les philosophes, le corps, il est mauvais. Regardez votre corps. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Comment il est ? Est-ce qu'il est parfait ? Bon, il n'est pas parfait. Bon, bah, les philosophes disent, parce qu'il n'est pas parfait, il n'est pas bon. Voyez-vous ? C'est de la logique, simplement. Bon, il est malade, il a des maladies, machin, etc. Donc le corps est mauvais. En plus, c'est des passions. Regardez, on entend les féminicides, les problèmes des gens qui attaquent, etc. C'est par le corps, c'est parce qu'on prend un couteau et on peut tuer l'autre, etc. Bon, il y a aussi la parole hein, qui peut tuer. Hein. Mais donc les philosophes qui cherchent la sagesse, ils disent, mais non, le corps, il est mauvais. Donc quand l'apôtre Paul ou quand nous, on dit, mais... un homme dans son corps est ressuscité, ils disent, mais ces gars-là, ils sont fous. Enfin, en tout cas, ça ne rentre pas dans la cervelle. Donc, c'est simplement un blackout, c'est-à-dire, c'est un blocage, vous voyez. Et donc, ils ont dit gentiment, bon, ben, on t'écoutera une autre fois là-dessus. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Paul les a piégés inconsciemment. Hein. Parce que résurrection, en grec, c'est quoi comme mot ? C'est Anastasia. Et Anastasia, il parlait d'Anastasia, il pensait que c'était la femme de Jésus. Voyez-vous ? Parce que pour eux, tous les dieux sont hommes et femmes. Ouais, c'est tout. Vous voyez comme quoi on peut être conditionné par nos croyances. Nos croyances, si elles ne sont pas sur la parole, eh bien, elles nous égarent complètement. Et du coup, on ne peut pas accepter le message de l'Évangile. Un autre blocage, c'est Acte 13. Acte 13 sont des chefs juifs, religieux. Là aussi, ça bloque au niveau de la religion. Si vous n'êtes pas dans une relation avec Dieu, eh bien la religion bloque, empêche eh bien, d'accepter aussi la résurrection. Ce sont des juifs religieux, je ne lis pas tout, hein, vous pouvez lire chez vous, du verset 44 au verset 51, eh bien des juifs religieux qui, dans la religion, et ça amène... Ça mène quoi, la religion ? Ben, ça mène de la jalousie. Voyez-vous, c'est qu'ils étaient jaloux du succès de Paul. Pourquoi ? Parce que Paul a annoncé la bonne nouvelle, la résurrection de Jésus, vous avez vu, là. Jésus est ressuscité. Donc, ils annoncent ça voilà, à tous ceux qui veulent bien entendre. Et du coup, les gens du peuple, si vous voulez, qui ne sont pas dans la philosophie, qui sont dans le quotidien, qui sont dans le ménage, qui sont dans pratico-pratique, etc., ils ont envie d'avoir des bonnes nouvelles. Vous n'avez pas envie d'avoir des bonnes nouvelles ? Hein. C'est catastrophique, les mauvaises nouvelles. Donc, ils écoutent les bonnes nouvelles. Et donc, ils y vont. Ils ne sont pas bloqués par une philosophie des grands sages ou des religieux. Les religieux, ils racontent en disant « Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » C'est ça, la religion. « Tu dois faire. » Pour, eh bien, plaire à Dieu. Eh bien, eux, ils ont entendu Paul qui a dit « Non, non, il suffit de croire que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avant vous et il vous précède. Et vous, vous pouvez vivre cette résurrection. » C'est pas une bonne nouvelle, ça. Vous avez besoin de rien faire. Il faut juste croire. Hein, voilà. Dis à ton voisin, il suffit de croire. Il suffit de croire dans la résurrection. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Eh bien, les juifs, les religieux, qu'est-ce qu'ils ont? Il est dit qu'ils furent remplis de jalousie. 45. Pourquoi? Parce que, et ils se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Hello? Moi, quand je me suis converti, j'étais dans une école d'ingénieur, je fais les arts et métiers. Et quand je me suis converti, j'ai témoigné de ma foi. Eh bien, il y en a qui m'ont craché dessus, ils m'ont etc., dans mon école. Hein. Et quand j'ai fait venir des évangélistes, eh bien, toute l'école était là, y compris les directeurs, tout ça, on était 300 dans l'amphi, et l'évangile était annoncé. Mais vous savez, il y en a qui sont furieux parce qu'ils ne supportent pas d'entendre la vérité. Et ils contredirent, et Paul et l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors, avec une pleine assurance, « C'est à vous en premier, donc aux Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission. » Et ça, c'est notre mission. Tout à l'heure, quand les jeunes, Jésus a dit, eh bien, il a soufflé l'esprit, il a dit, maintenant c'est votre mission, c'est notre mission. C'est ta mission, c'est ma mission, c'est notre mission. Amen. Et c'est quoi cette mission ? Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. C'est là notre mission. On le redit ? Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. On a une chance incroyable aujourd'hui. Incroyable. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que Dieu change toujours le mal en bien. Ça, c'est la puissance de Dieu. À l'insu des hommes, bien sûr, parce que les hommes, ils ne sont que poussière. Dieu, il est Dieu. Eh bien, cette situation où Paul avait le souci, en tant que juif, d'aller dans les synagogues, là, ça s'est arrêté. Là, ça s'est arrêté. À ce moment-là, acte 13, il est allé, il s'est dit, « Ok, vous refusez, vous les juifs, cette nouvelle ? Eh bien, on va vers les païens. » Et c'est là que les païens ont été évangélisés. Toutes les nations ont été évangélisées. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre mission. C'est notre mission. Pourquoi Dieu, quand on est venu ici, nous a dit, il faut établir ici, pas seulement une église, mais une maison de prière pour toutes les nations. Mais aujourd'hui, c'est facile à faire. Toutes les nations viennent ici. Vous voyez, tout le monde rouspète après l'immigration. Mais l'immigration, c'est extraordinaire. Regardez dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des Chinois, mais il y a Malgaches, il y a beaucoup de nations. Et la France est remplie de nations, et c'est extraordinaire. Voyez-vous, il faut voir les opportunités que Dieu donne. Ces opportunités, elles sont dans notre maison, elles sont chez nous, et il faut qu'on les utilise. Amen. Mais il ne faut pas qu'on se taise. Il faut qu'on ouvre la bouche. Amen. Il faut qu'on parle du message de Jésus. Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations. Parce que l'Église, ce sont toutes les nations. Avant, c'était Israël, c'était un peuple. Maintenant, c'est toutes les nations qui sont concernées. Amen. J'aimerais juste, pour terminer, rappeler les trois fêtes qui sont très importantes. Trois fêtes, celle de Pâques, aujourd'hui. Et la deuxième fête, alors, je vais vous donner la clé pour que vous ne vous trompiez pas. Il y a trois fêtes religieuses en Israël. Vous savez qu'Israël, c'est la promesse de ce qui va arriver. Hein. Jésus était juif. Et donc, tout ce qui a été dit en Israël, les prophètes, ça s'est réalisé. Donc, Pâques. Alors, il y a trois fêtes religieuses qui devaient être fêtées, célébrées à Jérusalem. Voyez-vous ? C'est-à-dire, le pèlerinage, il faut que les gens venaient. Et c'est des fêtes festives. Il y avait de la joie, il y avait tout ça. C'est quoi ces trois fêtes-là ? Pâques, Pentecôte et ah mince, mais... oh là là, bon ça y est, vous oubliez, j'aurais pas dû le mettre. Ok, alors vous savez, moi je suis d'origine catholique, hein. Je connaissais pas la fête des tabernacles. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici la fête des tabernacles ? Une, non ? Oui, une, deux, trois. Vous voyez, on connaît pas la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, donc c'est en octobre, le 16 octobre, enfin aux environs du 16 octobre, parce que ça dépend de la lune, ça change. La fête des tabernacles, il faut savoir qu'au temps des Juifs, c'était une obligation de tout, enfin bon, pas toutes les familles venaient, mais un membre de la famille se déplaçait pour aller à Jérusalem, et ça durait 8 jours. Pâques, c'était 8 jours. La fête des tabernacles, c'était 8 jours. Et Pentecôte, c'était 1 jour. Bon, je passerai les détails d'explication de tout ça. Et les fêtes des tabernacles, on ne connaît pas, parce que les catholiques ne connaissent pas non plus, c'est que en fait, on l'a transformée dans la fête des moissons. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fête des moissons ? Hein ? Et la fête des moissons ? Un peu dans tous les pays, il y a la fête des moissons. Hein ? En Canada, c'est la corne d'abondance. Le dimanche, la fête des moissons, ils mettent des citrouilles, des courges, etc. Voilà, etc. La fête des moissons. Mais la fête des tabernacles, c'est autre chose. Ça se passe au même moment, au même endroit. Mais ce n'est pas la même chose. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, tabernacle ? Julie ? Bien. Et ça veut dire quoi, tabernacle ? C'est du latin, hein ? C'est quoi tabernacle ? Demeurer, c'est demeurer, voyez ? Tabernacle. Alors dites-le à votre voisin, là, parce que ce matin, là, on vous apprenait beaucoup de choses. Là. Tabernacle veut dire demeurer. Demeurer avec Dieu. Voyez-vous ? Le tabernacle, rappelez-vous, dans le désert du Sinaï, ils ont mis un tabernacle. Voyez ? Donc une tente. Et la tente, qu'est-ce qu'il y avait dans la tente ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tente ? Soyez pas timide, vous le savez. Pardon ? L'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce que se représentait l'Arche de l'Alliance ? Pardon ? Alors, il y a Jésus dedans, mais c'est la présence de Dieu. Présence de Dieu, puisque Dieu, il est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu était présent avec ce peuple. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ça veut dire que Dieu est avec son peuple. Vous êtes d'accord ? C'est la logique, ça. Bon, ben, le tabernacle, c'est Dieu l'a instauré, parce que tous les détails du tabernacle, c'est dommage qu'on n'ait plus le frère, voilà, la maquette. La maquette, tous les détails du tabernacle ont un sens prophétique. Voyez-vous ? Et Dieu l'avait visualisé à Moïse dans l'esprit, dans le ciel, et il devait faire tout d'après ce qu'il avait vu dans le modèle du ciel. Parce que dans le modèle du ciel, c'est on rentre dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu sur terre, c'est le tabernacle. Donc tabernacler avec Dieu, c'est demeurer avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire dans la maison de prière. C'est pour ça qu'on l'appelle Elisheba. Elisheba, c'est Élisabeth en hébreu, ça veut dire demeurer avec Dieu. Dieu veut demeurer avec le peuple. Est-ce que vous voulez que Dieu demeure avec nous ? Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu demeure avec nous ? Amen. Eh bien, il faut qu'on soit des tabernacles. Il faut qu'on tabernacle avec Dieu. Et Dieu veut tabernacler avec nous. Quand je dis nous, c'est tous. C'est pas un plus un plus un, c'est tous ensemble. Ça veut dire le corps de Christ. C'est pour ça que c'est important. D'être un corps. Nous ne pouvons pas être séparés. On peut être séparés dans notre foi personnelle, mais quand on est ensemble, en Église, c'est un corps. Et donc, Dieu veut tabernacler au milieu de son peuple. Donc, Pâques, c'est la Pessa. C'est au printemps, c'est le salut, la délivrance. Et c'est là qu'on reçoit la mission. Pentecôte, Pentecôte, ça veut dire quoi? Bah, c'est marqué là, je n'ai plus de devinette à faire. Ça s'appelle semaine. Pentecôte, c'est semaine. Et il y a 7 semaines. 7 fois 7, ça fait? Et le 50e jour, c'est la Pentecôte. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Pas chercher midi à 14h. Donc, Pentecôte, c'est semaine, c'est les semaines. Il y a 7 semaines, et là, c'est la première moisson. Alors, la première moisson, chez nous, souvent, comme je vois chez nous, c'est le 1er juillet, ils commencent à couper les premiers blés. Hein, mais en Israël, c'est un peu plus tôt, c'est 1er juin. Et 1er juin, fin mai, 1er juin. Donc, c'est les premières moissons, c'est les gerbes des blés. C'est pour ça qu'ils agitent des gerbes, etc. Les gerbes des blés. Et ensuite, la moisson finale, c'est à l'automne. C'est tous les fruits, toutes les moissons qui sont rentrées, etc. Eh bien, c'est une image du peuple de Dieu qui va rentrer dans la présence de Dieu, mais en attendant qu'il doit demeurer, il doit tabernacler avec le Seigneur. Et la fête des cabanes, nous, on l'a découvert, Michel et moi, quand on était... Moi, j'ai fait mon service national à Montréal, au Canada. Et puis, à l'époque d'octobre, d'un seul coup, je vois des choses qui bougent autour de nous. On était dans un quartier juif. Hein. Bon, on avait un appartement en quartier juif. Et on était là. Et puis, on voyait voilà, des trucs qui remuaient. D'un seul coup, on voit des cabanes qui se construisent. Pardon ? Alors, sur les balcons, dans les jardins, tout ça, des cabanes. Je dis, j'ai jamais vu ça en France, j'ai jamais vu ça. Des cabanes, construire des cabanes. Mais tous les Juifs construisaient une cabane, voilà. Une hutte, une cabane. Et pour fêter, parce qu'ils mangeaient dans ces huttes-là pendant toute la semaine, qui était la semaine des tabernacles. Et ça amène quelque chose de concret. Ça veut dire, ça leur rappelle qu'ils ont vécu dans un désert. Et dans le désert du Sinaï, qu'est-ce que Dieu a fait quand il a demeuré avec eux? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné à manger. Hello? Il y a quelque chose dans le désert à manger? Il leur a donné à boire. Il les a enseignés. Il les a conduits. Parce que dans le désert, vous pouvez vous perdre. Okay? Mais c'est tout ça. C'est-à-dire, il a pris soin d'eux dans le désert. Dans un moment de fragilité. Et c'est ça la fête des tabernacles. Vous savez, ce serait bien que nous, on fasse cette fête-là pour nous rappeler que nous sommes fragiles et que nous n'avons pas à compter sur nos forces, mais compter sur la force du Seigneur. C'est dépendre de Dieu. C'est une fête de dépendance qui rappelle la dépendance en attendant que Jésus revienne. En attendant. Mais on n'attend pas dans l'abondance aujourd'hui. Nous avons des superflus. Nous avons un tas de choses qui nous encombrent et qui nous empêchent de venir à la prière, qui nous empêchent de venir dans l'Église en tant que corps. Vous voyez, il y a encore 50 ans, vous avez Moïse Harou qui vient, il ne reconnaît plus l'Église. En 50 ans, les pasteurs ne connaissent plus l'Église. C'est plus, les gens ne viennent plus, juste le culte, et encore, mais c'est tout. Mais les gens y venaient pour se restaurer, pour se nourrir, pour se faire du bien. Voilà. Donc, je reviens à Pâques, Pentecôte, la fête des semaines, et la Shavuot, donc Shavuot c'est Pentecôte, c'est les semaines, et Tabernacle, c'est la Soukot, la fête des cabanes. Amen. Aujourd'hui, je voudrais terminer en appliquant tout cela à notre église locale. Notre église locale a un appel, et je parle du corps, en tant que corps. Le corps, c'est qu'un seul corps. Il s'appelle EPEA aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, je vais l'appeler Église du Phare d'Élisa. C'est EPEA, les appellations. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tous, tout un chacun, nous sachions que la vision de Dieu pour cette Église, c'est d'être un phare. Tout à l'heure, c'est pas si extraordinaire que ça, puisque tout à l'heure, il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations ». Qu'est-ce qui fait le phare? Il éclaire. Il éclaire quoi? Il éclaire des navires qui risquent d'avoir des naufrages. Aujourd'hui, il y a des naufrages dans les vies. Il y a des naufrages des gens qui ne savent pas où ils vont. Des naufrages, les gens ne savent pas où est le port. Eh bien, nous devons être établis pour être la lumière des nations, pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités du monde. Ce corps que nous formons, nous devons évangéliser. Si nous n'évangélisons pas, nous n'accomplissons pas la mission du Christ. On a beau dire, ah oui, Seigneur, 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 mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, évangélisez toutes les nations. Et toutes les nations sont là. Vous sortez, vous avez toutes les nations. Eh bien, c'est notre mission. Amen. On a un privilège ici, à Aubergenville. Et ce privilège, c'est que Dieu a établi une alliance. Une alliance. Une alliance avec qui? Avec un certain Jacques Spiffham. Jacques Spiffham, il était secrétaire du roi à l'époque, quand il, c'était au XVIe siècle, je ne sais plus quel était le roi, c'est François Ier. Il était secrétaire du roi. Bon, il y a beaucoup de rois qui sont succédés à ce moment-là. C'est en 1650, secrétaire du roi. Il avait tout plein de décorations, de machins, etc. Il était écouté par le roi directement. Et il s'est converti à l'église, à la foi réformée. Il est devenu réformé. Et c'est quelqu'un qui habitait ici, au Aubergenville, dans un château qui n'existe plus, c'est le château d'Acosta, où c'est la mairie qui était à la place du château. Et il était là, et il a permis, Dieu a permis, au travers de lui, de faire une ville-refuge. Il n'y a pas beaucoup des villes-refuges en France, à l'époque, hein, il y avait beaucoup... en Provence, pour protéger la foi réformée. La foi qui contredisait la foi catholique à l'époque, elle était beaucoup plus éloignée de la Bible que maintenant, et eh bien, il était tenu ferme. Et c'était une ville-refuge. Et tous les habitants de Vaux, les Huguenots, là-haut, eh bien, ils étaient protestants. Ils étaient chrétiens protestants. Et vous avez un cimetière qui en témoigne. En 1998, quand on a eu des problèmes ici dans l'église parce que cette bâtisse était habitée, eh bien, on a demandé à une prophétesse qui est dans le nord de l'Angleterre, près de l'Écosse, qu'elle vienne nous voir. Elle a dit, attendez, je vais me placer devant Dieu. Elle ne connaissait absolument pas cette région, elle connaissait un peu le midi de la France, et elle s'est mise en prière. Et d'un seul coup, elle a une vision. Il a une vision. Il nous a partagé cette vision. Il a vu des gens qui sont dans une auberge. C'est auberge en ville. Dans une auberge, il y a des auberges. Dans une auberge. Et le mot qui lui est apparu, la date qui est apparue dans la vision, c'est 1685. Qu'est-ce qui s'est passé en 1685? Ceux qui connaissent l'histoire de France, on la perd un petit peu maintenant parce que on apprend un tas d'histoires, mais pas l'histoire de France. C'est 685, la révocation de l'édit de Nantes. Non, 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 le roi, c'est Spiffham, c'est 1650. Il faut que tu remontes... 1560, pardon. C'est 1560. Non, 1685, c'est la vision que Anne Griffith, qui est prophétesse, qui a vue. Et elle a vu des chrétiens, donc des huguenots, ça s'appelle des huguenots, des protestants, qui étaient dans cette auberge. Ils ont dit, on doit fuir parce qu'on sera persécutés. Et il y avait 70 personnes à peu près dans cette auberge qui ont dit, on va fuir. Ils sont partis essentiellement en Angleterre, enfin ceux-là, il y en a à Amsterdam, etc. Et ils ont dit, ils ont fait une prière d'alliance. Ils ont dit, ce sont nos poursuivants, ceux qui viennent après nous, qui doivent continuer la mission. Donc ici, on est sur une terre bénie, une terre dans une alliance, parce que le fameux Spiffham est devenu le troisième après Calvin, Calvin, Mélenchon et Spiffham à Genève. Et il a dirigé la réforme protestante. Et donc, Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie pas. Et nous, en 90, quand on est venu ici, on a eu cette révélation. Qu'on devait poursuivre la mission. Et que c'était une terre bénie. Et que dans cette terre bénie, le Seigneur va à nouveau, comme au XVIe siècle, permettre que ce soit un phare. D'où la vision du phare. En 2015, alors il y a quelque chose qui s'est passé en 2015, l'Église nous a payé un voyage aux États-Unis. On n'a rien demandé à personne, mais à l'époque, les responsables se sont cotisés. Ils ont dit, ah, on va faire un cadeau à André et Michel en tant que pasteur. Et donc, ils nous ont envoyé en mission à Redding, en Californie, dans l'église Bethel, dans le nord de la Californie. Et ils ont dit, il y a un réveil là-bas. il faut absolument que vous ameniez ce réveil ici. Nous, on est d'accord pour le réveil. Il n'y a pas de souci. Donc, en Italie, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de réveil. On a trouvé un simili réveil. Parce que nous, on a connu le réveil de John Wimber, qui est là, vous voyez, et qu'on a suivi à l'époque. Et là, on a vraiment vu un réveil. Mais là, on n'a pas vu de réveil. On a vu une catastrophe qui allait déferler sur le monde chrétien, et en particulier les jeunes. Mais à côté de ça, le Seigneur m'a parlé. Et j'ai dit à Michel, tu sais, ça, je ne peux pas rester là. On était resté 5 semaines, je crois, 4 semaines, 3 semaines. Et j'ai dit, non, il faut Dieu nous a envoyés pour autre chose. Et à un moment donné, j'ai vu université, juste à côté, université Simpson. Je dis, ah, c'est une université chrétienne. Bon, je ne connais absolument pas. Et on y va. Enfin, non, on n'y va pas. Alors, si, on y va. On a circulé, mais bon, il n'y a personne hein, dans l'université. C'est ouvert, open space, donc c'était très beau. Et puis, j'ai dit, il faut qu'on trouve une église, parce que là, je ne vais pas rester dans ce rassemblement-là. Il est destructeur. Je vais rechercher une église. Et j'ai pris, vous savez, aux États-Unis, quand vous regardez dans les hôtels, il y a toute une liste d'églises, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, Seigneur, dans quelle église on doit aller? Et j'ai eu la conviction qu'une église, on devait y aller. Donc je dis à Michel, bon, dimanche, on va dans cette église. On va dans cette église, moi je ne sais plus le nom exactement, cette église. On y va, et ça nous a beaucoup plu. Et il y a une annonce, le pasteur dit, bon, bah, demain, il y a une réunion. En fait, c'est une réunion de femmes, moi je n'ai pas compris que c'était une réunion de femmes. C'était une réunion, et donc j'ai dit à Michel, on y va, parce que j'étais persuadé qu'il fallait aller dans cette église. Donc j'y suis allé, et puis monsieur, ils m'ont regardé, parce qu'il n'y avait que des femmes, et bon, Michel, ça allait. Mais moi, j'étais un peu comme, vous voyez, un chien dans un jeu de qui. Mais bon, ils m'ont bien reçu. Et qu'est-ce qui témoigne, là? C'est des missionnaires américains qui sont en France, du CMA, là, de l'Alliance chrétienne missionnaire. Et ils ont expliqué à Tours tout ce qu'ils ont vécu. Je dis, waouh, c'est incroyable, ils ont tout compris. Au niveau combat spirituel, ils ont expliqué au parterre qu'ils enseignaient toutes les difficultés en France, les problèmes d'idolâtrie, machin, etc. Et j'étais assis. Et à la sortie, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Je ne vous connais pas du tout, je ne connais pas du tout ce mouvement en France, Mission Chrétienne, Alliance Mission. Elle dit, moi j'ai un ami, un directeur de mission, je peux vous le faire rencontrer demain matin à l'université Simpson. Donc on y est allé, on avait rendez-vous, on a mangé avec eux, et c'est là qu'on a commencé à faire un partenariat, enfin j'ai commencé à faire un partenariat de jeunesse. Le problème c'est qu'ici ça n'a pas suivi, parce qu'en fait il faut rentrer dans un cursus universitaire où il faut faire des demandes pour que les jeunes... Mais c'est des jeunes qui sont dans le NBA, c'est-à-dire au niveau basket, ils sont au niveau national, quoi. Ils sont extrêmement performants. Et quand ils viennent, quand ils font de l'évangélisation, je peux vous dire, quand ils font un appel, ça produit de l'effet. Ça, c'est pas fait, ils sont allés à Limoges. Je voulais me rapprocher de cette organisation, mais ici, ils sont baptistes, ils sont pas charismatiques. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que dimanche dernier, il y a Benoît qui arrive, et on discute. Et lui, il fait partie de cette église. Je dis, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est inimaginable, quoi. Il n'y a pas de hasard, moi, je ne crois pas au hasard. Et en plus, moi, j'ai beaucoup étudié ces personnes qui sont là, hein, qui m'ont beaucoup frappé. Alors, celui à gauche, c'est Simpson qui a créé ce mouvement. En bas, c'est Tozer. Ceux qui connaissent la prière, eh bien, il est vraiment connu sur la prière et l'intercession. Et Jonathan Goforth, qui est en Chine, qui a créé une mission en Chine. Et ils ont un logo qui est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus sanctifie, Jésus règne et revient. Nous, on était Foursquare à un moment donné. La différence, c'est pas Jésus baptise de l'esprit, bien sûr, il baptise aussi, mais sanctifie, la sanctification. Et ils mettent l'accent sur la sanctification. Et donc, ce que je propose, c'est un peu aujourd'hui le démarrage de cette vision, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on consacre cette église qui s'appellera l'église du phare. On gardera l'église protestante évangélique d'Aubergenville, ça n'est pas de souci, c'est quelque chose qui est dans les statuts. Mais tout simplement, vous pouvez dire, vous allez à l'église du phare d'Élisa. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Et ça incarne la vision. Nous devons être un phare. Hein. Et la maison de prière, ça s'appellera Élisabeth, en hébreu, ça peut être Elisheba, c'est-à-dire la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Et là, du coup, on va tabernacler. On va aussi, disons, incarner cette fête de la demeure de Dieu parmi nous. Et cette maison, c'est une pièce qu'on a réservée en bas, elle sera ouverte à tous les chrétiens de la région, à tous ceux qui veulent bien prier, bien intercéder, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, qu'on invoque la demeure de Dieu au milieu de nous. Voilà la vision qui démarre aujourd'hui, officiellement. Le Seigneur a permis qu'on soit un trio du phare qui a démarré il y a 2 ans, et c'est ça qui m'a poussé à rester en tant que pasteur, sinon je ne serais pas resté. Ce qui m'a poussé, c'est de voir que Dieu nous fait entrer dans une vision que lui, il a pour cette Église. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi, tu ne changes pas. Toi, Seigneur, tu as des plans. Et ces plans, Seigneur, ils se réalisent avec des hommes et des femmes qui sont volontaires pour obéir à ta voix, à ta volonté. Seigneur, je plaide ce matin pour que tous les membres de cette Église puissent être volontaires pour obéir, Seigneur, à la vision que tu as donnée à cette Église qui est la continuité de ces frères et sœurs qui étaient là il y a des années et qui ont œuvré pour l'avancement de ton royaume dans cette région. Seigneur, aujourd'hui, c'est à nous. Nous voulons prendre le bâton de relais. Nous voulons, Seigneur, relever ce défi, ce challenge, Seigneur, qui est d'ailleurs la mission déjà de base. Mais Seigneur, en plus, nous sommes sur une terre bénie parce que toi, tu l'as bénie. Parce que toi, tu respectes ton alliance, Seigneur. Quand tu fais une alliance, eh bien, Seigneur, c'est toi qui la respectes. Ce n'est pas nous, mais nous devons être obéissants à ton alliance. Et Seigneur, merci parce que tu as permis qu'aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, mettre cette pierre de fondation. Cette pierre de fondation pour que tous ceux qui viendront ici, Seigneur, puissent participer à cette mission d'annoncer l'Évangile, que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. J'invite les personnes qui sont désignées pour le repas du Seigneur. On va conclure ce moment avec ce repas que Jésus, d'ailleurs, a institué. Et